Bonsoir. Assemblée nationale, les divergences persistent au sujet du contenu du projet de la loi électorale, principalement sur trois points. Il s'agit du seuil électoral, de la caution de 450 000 francs congolais pour se présenter aux législatives, ainsi que de la machine à voter. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question du débat et nous en parlons avec Alain Parfait-Ngolungu, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir monsieur Alain Parfait-Ngolungu.
Bonsoir monsieur Guimaté.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Et bonsoir professeur Bob Kabamba.
Oui, bonsoir monsieur Irong et bonsoir aux auditrices et auditeurs.
Et lui va nous rejoindre, c'est monsieur Ferdinand Kapanga, il est expert en questions électorales et président de l'ONG Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale. Il est aussi coordonnateur et porte-parole de la plateforme Et du Ciel. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Poursuite des négociations des députés nationaux des différents groupes parlementaires présidés par les bureaux de l'Assemblée nationale. C'est au tour du projet de loi électorale sous examen. En dépit des longues discussions, les divergences ont persisté sur trois points, dont les seuils électoraux, la caution et la machine à voter. Il y a tout de même des avancées, car la majorité a ramené les seuils à 1% au lieu des 3 proposés par le gouvernement, alors que l'opposition est restée sur sa position radicale. Explication de Michel Kifindangoy.
L'opposition parlementaire persiste et signe, le seuil électoral doit être élagué du projet de loi sous examen et la machine à voter doit faire l'objet d'un consensus. Léon Mondolé, président du groupe parlementaire des démocrates libéraux.
Nous trouvons que le seuil d'éligibilité non seulement est anticonstitutionnel, mais aussi le seuil d'éligibilité va éliminer les petits partis dans la compétition électorale. Nous sommes contre ce seuil d'éligibilité et Nous demandons carrément qu'on l'enlève dans la loi.
Les députés de la majorité présidentielle qui avaient déjà ramené le seuil à 1% au lieu de 3 estiment que la position radicale des opposants témoigne de leur manque de volonté d'amener le pays aux élections. Paulin Kachongo.
Aujourd'hui, vous avez la preuve que l'opposition ne veut pas qu'on aille aux élections. Pour nos amis de l'opposition, il fallait qu'on arrive au 30 décembre 2017 sans loi pour qu'ils puissent dire que la majorité par le PPRD aura échoué.
Ces consultations initiées par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, vont donc se poursuivre ce lundi avant midi afin de dégager un consensus des députés autour de 3 points qui divisent encore l'opposition et la majorité dans la loi électorale.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. La divergence persiste au sujet du projet de la loi électorale. Comment vous expliquez ces divergences d'abord en ce qui concerne les seuils d'éligibilité?
La question. Mais il faut savoir que lorsque l'on parle de la loi électorale, c'est une loi éminemment politique. C'est la loi, en fait, qui décide, qui donne les cadres dans lesquels la représentation nationale va se présenter. Et tout le monde, tous les politiciens, tous ceux qui font de la politique, font justement de cette loi électorale une loi fondamentale. Alors, de ce fait, généralement, quand on a cette loi, il y a toute une phase préalable qui est toujours importante à pouvoir faire, qui est une phase de consultation, permettre effectivement aux différents politiciens de pouvoir faire leurs petits calculs pour savoir si c'est bon ou pas bon, dans quel sens on peut aller vers une modification ou bien vers une organisation des élections. Ensuite, il y a la phase d'appropriation de la loi. C'est-à-dire que les hommes politiques doivent s'approprier cette loi. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir de manière claire que si on adopte telle loi, tel système qui est proposé, nous pourrons avoir plus ou moins tel résultat en bout de course, au bout d'un électoral. Alors, ce qui est assez frappant ici, c'est que le gouvernement est venu avec une réforme électorale directement en mettant sur la table toute une série de données qui apparemment dérangent beaucoup au niveau politique, notamment la venu de souligner la question du seuil. En soulignant la question du seuil, justement, ce qui prouve à suffisance, c'est que on veut lutter contre la prolifération des partis politiques, alors que ce n'est pas ça qui va arriver à résoudre la question des partis politiques. Actuellement, il y a 600 partis politiques qui sont enregistrés, et tous ces partis politiques vont concourir et donc aux élections. 3%. On essaye d'éliminer de manière claire, d'éliminer de formations politiques qui ne pourraient pas avoir accès. Et ce qui est assez étonnant, que beaucoup de partis de la majorité sont en train de soutenir cette proposition, et en sachant très bien que ces mêmes partis politiques risqueraient carrément, tout simplement, de disparaître si on maintenait effectivement ce seuil de 1%. D'où on peut comprendre effectivement la réaction et l'opposition qu'il y a au sein du Parlement. Par ailleurs aussi, la caution qui est ramenée à 450 000, de 800 000 à 450 000 francs congolais, ce qui prouve aussi à suffisance, là aussi, qu'on essaye par tous les moyens de mettre frein à cette prolifération des partis politiques, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit les meilleurs outils qui va
Ok, professeur. Oui, il s'est posé un problème avec votre ligne, je ne sais pas à quoi cela est lié. Oui, alors vous parlez du seuil d'éligibilité. La majorité présidentielle a fait une concession en ramenant ces seuils de 3% à 1%. Mais en dépit de cela, qu'est-ce que cela peut changer au fond? Est-ce que le problème ne reste-t-il pas posé?
Le problème va être le même. En fait, le problème vient du mode de scrutin que on a dans la loi. C'est pas ces modalités-là, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire que lorsque l'on a adopté un mode de scrutin de liste ouverte et avec des circonscriptions électorales qui sont des territoires, à ce moment-là, on a individualisé, on a tribalisé, on a ethnicisé le vote à la représentation nationale. Or, en faisant cette option-là, tout le monde veut maintenant être représenté, sa tribu, son ethnie, son territoire doit être représenté au niveau de Kinshasa, au niveau de la représentation nationale. D'où le fait que chacun, maintenant, qui veut concourir aux élections, qu'est-ce qu'il fait, premier réflexe? Il va créer son propre parti politique, même s'il se retrouve tout seul comme membre de ce parti politique. Et c'est lié au phénomène du mode de scrutin et non pas par rapport à ce que le gouvernement est en train de penser. Si on veut résoudre le nombre de partis politiques qui puissent concourir, c'est le changement du mode de scrutin qui pourrait amener à avoir un frein au niveau de la prolifération. Ramener à 1% ce seuil, à 1% comme vous venez de le dire, ne va rien changer puisque tout simplement, quand vous le ramenez même à 1%, vous regardez la plupart des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais ne pourront même pas atteindre ce 1%. Ils ne pourront pas l'atteindre. Et aussi le fait que beaucoup de partis politiques, ce ne sont pas des partis politiques nationaux, ce sont des partis politiques généralement tribales, voire même territoriales ou provinciales dans certaines mesures. Et beaucoup de ces partis provinciales ou même tribales ou même au niveau, représentés uniquement au niveau d'un territoire, bah, même à 1%, ils ne seront pas arrivés à 1%, à un seuil de 1% en plus au niveau national.
Oui, professeur, l'émission est aussi pédagogique. Quels seront les enjeux politiques si le système des seuils est adopté?
Alors, si le système des seuils est adopté, c'est que ça va avoir comme effet, c'est-à-dire que l'on va arriver à ce que ceux qui pensent qu'ils ne pourront pas atteindre ce seuil vont avoir tendance à vouloir se regrouper pour pouvoir additionner toutes les voies au niveau national et ainsi espérer arriver au seuil. Ça, c'est l'objectif que certains pourraient être amenés à faire. Autre chose aussi, c'est surtout, je pense aussi au niveau de la majorité, c'est que la majorité, elle est plurielle, elle se retrouve avec beaucoup de partis politiques et qu'elle ne sait plus parler d'une seule voix. Et comme elle ne sait plus parler d'une seule voix, elle essaie de trouver des mécanismes qui vont lui permettre de pouvoir réavoir une cohésion. Je dois vous rappeler quand même quelque chose de très intéressant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2011, lorsque l'on organise effectivement les élections de 2011, la majorité, c'est la majorité en fait qui a créé une multiplicité des partis politiques pour pouvoir capter ce qu'on appelle les voix le plus fort reste. C'est-à-dire que lorsqu'on répartit les sièges, il y a des voix qui restent. Et ces voix-là qui restent, la majorité a créé des partis politiques pour pouvoir capter ces voix-là qui restent et ainsi espérer avoir des sièges. Alors, ce phénomène qu'ils ont eux-mêmes créé se retourne contre eux, puisque tout simplement, ils n'arrivent même plus maintenant à avoir une coordination claire, avec une direction claire, et cette majorité qui parle ne parle plus d'une seule voix, et l'espoir pour pouvoir arriver à cette proposition, pour arriver à avoir une certaine cohérence au sein de la majorité. Par contre, pour l'opposition, c'est aussi le même cas de figure. C'est-à-dire que si l'opposition, si le seuil passait, l'opposition aura intérêt à pouvoir se coaliser, ira dans le système de groupement politique pour espérer avoir effectivement ce seuil-là et participer à la répartition des sièges. Autre chose aussi, ça veut dire que par exemple des partis politiques comme l'UDPS n'aura pas besoin de se coaliser. Il pourra, de mon point de vue, avec les résultats qui ont été les leurs en 2011, ils pourront sans aucun problème atteindre largement ce seuil. Et il pourrait être même le premier parti. C'est toute chose restant égale par ailleurs.
Merci, professeur Ferdinand Kapanga. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes expert en questions électorales et président de l'ONG Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale. Vous êtes aussi coordonnateur et porte-parole de la plateforme et du ciel. Et avec vous, on va aborder cette autre réforme contenue dans ce projet de loi. Et c'est la machine à voter. La machine à voter, c'est un mode de vote. Et vous pensez que ces modes de vote devraient d'emblée susciter autant de polémiques?
Bon, c'est tout à fait normal. Lorsque on veut s'engager dans une nouvelle méthode de vote, il faut qu'il y ait débat. Il ne faut pas penser que c'est parce que les gens débattent que le système est mauvais. Les gens débattent pour que l'organe de gestion des élections fournisse toutes les informations dont les gens ont besoin pour comprendre ces nouveaux mécanismes. Et dans l'échange qui s'ensuit, il faut que les gens puissent connaître les tenants et les aboutissants de cette nouvelle modalité de vote, que les gens puissent connaître les avantages et les désavantages. Et surtout, il faut connaître les critères de choix. Que vise ce système? Est-ce que le système qu'on met en place vise à simplifier les votes, rendre les votes simples? Est-ce que le système qu'on veut mettre en place, c'est une innovation qui va dans le sens d'améliorer la qualité du service que la CENI rend à la population? Est-ce que le système, la modalité qu'on veut mettre en place vise la stabilité à long terme plutôt que les avantages immédiats? Donc, il faut que les débats s'organisent autour de la question pour que lorsque on fait le choix, on le fait en connaissance des causes. J'insiste que lorsque on veut choisir un nouveau système de vote, il faut mettre en place les critères, ensuite vérifier si ces critères sont réunis. Il est bien sûr évident que aucune modalité de vote ne peut réunir tous les critères.
Oui, M. Ferdinand Kapanga, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un débat, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que la polémique à laquelle on assiste actuellement ne serait pas liée au fait que certaines étapes du processus d'élaboration d'une loi n'ont pas été prises en compte, comme l'a relevé le professeur Bob Kabamba? Il a parlé de la phase de consultation, il a parlé aussi de la phase d'appropriation d'une loi par les hommes politiques. politique, on se rend compte que ces étapes n'ont pas été prises en compte. Les députés ont été surpris de voir un texte devant eux qui a été proposé par le gouvernement, alors qu'en amont, ils n'ont pas été associés, n'est-ce pas, à ces processus d'élaboration de la loi.
Je crois que c'est normal que les gens puissent se poser beaucoup de questions. Parce que je me souviens, en 2004-2005, lorsqu'il fallait lever les options à mettre dans la Constitution, lorsqu'il fallait lever les options à mettre dans la loi électorale, la CI, à l'époque, avait organisé beaucoup de descentes sur terrain pour expliquer les différentes options. Parce que ce qui est vrai est que les systèmes électoraux sont faciles à manipuler pour les meilleurs et pour les pires. C'est pourquoi les gens ont besoin d'avoir de l'information. Je vous informe que la fois passée, j'étais à l'Assemblée nationale lorsque la PAG s'est réunie pour commencer à étudier la nouvelle loi. J'ai fait attention pour suivre les débats entre certains députés sur place. Il y a certains qui venaient d'apprendre pour la première fois les problèmes d'essai. Ils ne connaissaient rien d'essai. Donc, il était utile qu'on puisse organiser beaucoup de séances d'information avec les députés. Parce que lorsque nous voulions mettre en place le système proportionnel, moi je suis parmi les experts qui avaient contribué à l'organisation de beaucoup de formations avec les députés ainsi que avec la commission constitutionnelle du Sénat.
Oui, voilà. Vous êtes posé la question, n'est-ce pas, de savoir si la réforme vise quoi, quelles sont les innovations, tout ça. Est-ce qu'elle vise la stabilité à long terme? Et pour la CENI, s'il faut parler de la machine à voter, pour la CENI, cette machine est moins coûteuse. Elle va permettre, n'est-ce pas, à la RDC d'économiser plus de 300 millions de dollars américains.
Oui.
C'est l'un des avantages.
Bon, si c'est un avantage, comme l'a dit la CENI, c'est une bonne chose. Parce que vous savez que le processus de démocratisation est très coûteux. Et l'économie du pays est une économie exsangue. Les ressources ne sont pas suffisantes. Le budget de l'État est insuffisant. Mais si la CENI travaille dans l'optique de diminuer les coûts des élections, cela est une bonne chose. Parce que lorsque on regarde parmi les objectifs d'un système électoral, le premier objectif, c'est limiter les coûts financiers, logistiques et administratifs des élections. Si c'est là l'objectif qui est visé par la CENI, moi, je suis d'accord.
Oui, mais c'est vrai que ça peut être l'un des avantages, mais selon certains experts, aucune machine à voter n'est inattaquable. Monsieur Ferdinand Kapanga, cette machine ne vient-elle pas, en résolvant un problème de finances, créer d'autres problèmes?
Là, vous avez tout à fait raison, parce que aucun système électoral n'est parfait. Aucune modalité de vote n'est parfaite. C'est ainsi que si la CENI veut engager les pays dans ce processus, toutes les précautions doivent être prises pour éviter justement que les résultats escomptés ne soient pas atteints. Les résultats escomptés, c'est quoi ? Diminuer les coûts des élections. Les résultats escomptés, c'est quoi? C'est simplifier la manière de voter, avoir les résultats le plus vite possible. Ça, ce sont les résultats qui sont escomptés. Mais si toutes les précautions d'usage ne sont pas prises, les résultats escomptés peuvent ne pas être atteints.
Merci Alain Parfait Ngulungu, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Votre analyse par rapport à cette réforme du système électoral.
Merci beaucoup, cher Guy Maté, pour nous avoir associés à ces échanges républicains. D'abord, je voudrais saluer mes deux compatriotes, Ferdinand et Bob. La question que l'on devrait se poser suite à cette réforme électorale en cours est celle de savoir quels sont, si vous voulez, quel est l'idéal derrière lequel on procède à cette réforme électorale. Évidemment, les objectifs assignés par rapport à cet avant-projet de loi qui a été déposé récemment et voire même adopté à l'Assemblée nationale, et de voir comment réformer justement réformer, si vous voulez, l'une des composantes essentielles du processus électoral qui est l'essai électoral qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et des salives. Mais justement, pourquoi alors cette réforme a subi actuellement tous les coups du monde? Justement parce que il me semble qu'il n'a pas eu assez un travail de sensibilisation et d'information autour de ces processus de la réforme électorale. Il me semble que c'est depuis 6 mois que ce projet a été concocté, mais malheureusement, pas grand monde n'était au courant de cette initiative. Alors, en ce qui concerne l'essai électoral, nous savons que c'est justement pour essayer, parce que le gouvernement qui a déposé ce projet de loi a évoqué, comme entre autres objectif, c'est de voir comment améliorer le système électoral, parce que il me semble que dans les élections passées de 2006 et de 2011, il y a eu beaucoup d'abus en termes d'actes qui fâchent pratiquement la moralisation politique, et donc de ce fait, le gouvernement cherche à mettre terme à cela en modifiant ses quotients électoraux. Attribuer
et donc, on peut dire à une formation politique. On peut dire que ces projets de loi et les résultats, n'est-ce pas, des évaluations qui ont été faites au sujet des élections qui se sont déroulées en 2006-2011.
Pas forcément, parce que la manière où ce projet de loi a été élaboré, il me semble que d'abord, il n'y a pas eu ce qu'on peut appeler une information électorale, c'est-à-dire toutes les parties prenantes n'arrivent pas à dégager un consensus commun autour de cette réforme, notamment, je fais allusion ici à l'opposition politique, qui est, comme on dit, la sève pratiquement de la démocratie, qui malheureusement, dont le point de vue aujourd'hui ne sont pas écoutés par l'autre partie, donc la majorité au pouvoir. Mais il y a aussi la société civile. Vous avez suivi dans les médias, tout comme dans les médias sociaux, il y a eu une sorte de levée de bouclier par rapport à cette réforme électorale. À mon entendement, je crois qu'il n'y a pas eu de la part des parties prenantes au processus électoral une vue commune par rapport à cette réforme électorale. Et c'est important, il faut en avoir, parce que, comme vous le savez, depuis décembre 2007, l'opposition politique à RDC a un statut particulier. Et donc, il faut absolument, si on s'en tient à une démocratie pluraliste qui est implémentée dans notre pays, qu'on tienne compte aussi de cette voie-là de l'opposition politique et notamment de la société civile.
Monsieur Alain Parfait, il n'y a pas de raisons valables qui peuvent justifier l'opportunité de cette réforme du système électoral. On parle de la moralisation de la vie publique. Vous avez posé la question de savoir quel est l'idéal, n'est-ce pas, visé en proposant cette réforme, n'est-ce pas, la moralisation de la vie publique.
Oui, exactement. Je ne récuse pas. Il y a plusieurs objectifs à cela. C'est justement d'améliorer d'abord les processus électoraux en lui-même, mais aussi de voir comment, avec des candidatures fantaisistes que nous avons eues aux élections de 2006 et de 2011, on compte aujourd'hui près de 700 partis politiques en RDC, ce qui est une chose abominable. Il faut arriver à mettre fin à cela. Est-ce l'opportunité maintenant de profiter pour mettre un seuil les 3% qui aujourd'hui est ramené à 1% pour limiter certaines une participation pratiquement populaire à ces suffrages? Je dis non. Il faut accorder conformément aux prescrits de la Constitution, la chance, l'opportunité, si vous voulez, à tous les Congolais d'être candidats et d'être élus. Et je crois que c'est une bonne chose pour la démocratie pluraliste dont nous voulons.
Il y a des experts qui affirment que ce projet de loi permettrait au PPRD de rafler à lui seul 80% des sièges dans les futurs parlements. Est-ce que là, on n'exagère pas sur le chiffre? 80% des sièges pour un seul parti politique?
Bon, je n'ai pas encore fait des calculs exacts sur cela, mais je crois que ces sortes de machinations a pour corollaire, justement, de pouvoir attribuer la part du lion à une formation politique qui, du reste, contrôle tous les rênes du pouvoir. Et ce qui est malheureux pour la démocratie dont nous voulons être pluraliste, qu'elle soit pluraliste parce que nous avons mis fin déjà à la dictature.
Et à votre avis, quel pourrait être le scénario possible au cas où ce projet de loi venait d'être adopté?
Oh, nous aurons un coût social en termes de tensions, en termes pratiquement des mouvements qui vont heurter les processus électoraux, chose dont les pays, la RDC n'a plus besoin parce que nous avons souffert de ces années, ces années noires. Donc, on ne voudrait plus revenir dans cette sorte, si vous voulez, de périodes assez macabres pour l'histoire électorale dans notre pays.
Professeur Bob Kabamba, il y a une réflexion pour vous, elle vient de Kananga au Kasaï central.
Docteur Pasi Kenan, à partir de Kananga au Kasaï central. Une fois de plus, l'opposition congolaise ouvre à la face du monde qu'elle ne veut pas aller aux élections car en rejetant cette loi électorale, l'opposition freine non seulement le processus électoral, mais sacrifie l'avenir de toute une nation qui attend impatiemment les élections d'ici décembre 2018. Par ailleurs, c'est vrai que la loi électorale présente certaines imperfections selon l'opposition. Mais l'essentiel est d'avoir d'abord les élections, quelles que soient ces imperfections mineures d'ici 2018, et de préférer une loi électorale parfaite avec des élections supposées incontestables qui ne se tiendront qu'au-delà de 2018. Car la sagesse voudrait qu'entre deux mots, mieux vaut choisir le moindre mal.
Bob Kabamba.
Ok, merci pour la question. Merci beaucoup pour la question. Ici, quand on parle effectivement, on parle d'une réforme électorale. On ne parle pas d'une nouvelle loi électorale. Donc c'est une réforme électorale. Il y a déjà une loi électorale qui existe. Même si il y a aujourd'hui l'opposition dit ne pas soutenir cette réforme, mais il y a déjà une loi qui peut organiser les élections sans que l'on ait cette loi. Ce qui manque aussi par rapport pour répondre à la question de l'auditeur, c'est que la CENI a voulu cette réforme pour pouvoir être en mesure, dit-elle, de pouvoir organiser ces élections dans le délai. Dans le délai, c'est-à-dire jusqu'au 23 décembre 2018. Et donc, clairement, cette réforme veut être un élément pour aller vers un calendrier qui soit respecté. Alors, si l'opposition n'est pas d'accord avec cette réforme, c'est son droit. Mais il peut y avoir quand même des élections qui peuvent être organisées avec l'ancienne loi. Et il faudra aussi attendre, bien sûr, la loi sur la répartition des sièges. Et cette loi ne sera disponible que lorsque la CENI aura fini tout son processus d'enrôlement et aussi tout le processus de nettoyage du fichier électoral.
Oui, professeur, revenons à la machine à voter qui est une des réformes, n'est-ce pas, consacrée par ce projet de loi. Et cette machine à voter a comme avantage, l'un des avantages, n'est-ce pas, réduire, n'est-ce pas, la taille du bulletin de vote parce que on avait 35 000 candidats à la députation provinciale, on avait 28 000 candidats à la députation nationale et avec ça, on était obligé, n'est-ce pas, la CENI est obligé d'imprimer, de commander des bulletins de vote qui avaient l'aspect de tout un livre. Mais avec cette machine à voter, oui. c'est juste un petit carton là et vous votez. N'est-ce pas une innovation qu'il faut saluer?
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont en fait des mécanismes qui existent pour essayer d'une part de résoudre d'abord la question du coût, ensuite de résoudre la question de la rapidité de la promulgation des résultats. Vous en doutez bien que lorsque l'on fait les élections avec des bulletins papier, ça prend toujours beaucoup de temps pour pouvoir promulguer les résultats provisoires par la CENI parce qu'elle doit attendre tout le processus de rassemblement ainsi que de traitement de différents résultats dans toute la République. Alors il y a cet aspect-là des choses, il y a aussi l'aspect, comme vous dites, effectivement, de la question des bulletins de vote liés, encore une fois, au nombre de candidats, qui est lié au nombre de candidats. Plus vous avez des candidats, plus vous avez effectivement un bulletin de vote qui ressemble à un journal, à un quotidien, plutôt qu'à un bulletin de vote. Il y a manifestement des effets positifs il y a quelques aspects positifs de cette réforme qu'il faut souligner. Mais le problème qui se pose, c'est toujours la question de l'appropriation. Parce que avant de pouvoir amener cette machine à voter, il aurait fallu, de mon point de vue, que les parlementaires, que la société civile, que toutes les parties prenantes puissent déjà, préalablement, en discuter, en débattre et pouvoir être convaincus de la nécessité d'avoir cette machine à voter. Malheureusement, quand on précipite maintenant une réforme à la fin d'une législature, on précipite une réforme et on a bien entendu des résistances au changement qui viennent de la part aussi bien de l'opposition, qui est de membres aussi de la majorité, comme je viens de le lire sur le site de Radio Okapi.
Oui, professeur, au-delà de l'appropriation, comme vous venez de le relever, de la réforme par la classe politique, c'est vrai que cette réforme vient résoudre, n'est-ce pas, certains problèmes, notamment la rapidité dans les opérations de vote, la taille des bulletins de vote, les coûts aussi de ces élections. Mais j'ai posé la même question à monsieur Ferdinand Kapanga. Il y a des experts, n'est-ce pas, qui estiment qu'aucune machine à voter n'est inattaquable. Cette machine à voter qui vient solutionner certains problèmes, est-ce qu'il ne va pas poser de nouveaux problèmes?
Il y aura de nouveaux problèmes, parce que dans tous les systèmes, vous avez, il y a déjà eu des systèmes qui ont existé, et ça existe dans plusieurs pays, parce qu'on avait même eu le système de vote électronique qu'on a constaté dans toute une série de pays, mais la tendance actuelle est en train de revenir, en fait, à l'élection papier, pour la bonne et simple raison que le citoyen qui veut donc voter veut effectivement avoir la preuve et être sûr de son choix, que le choix qu'il a posé est celui que lui-même a mis dans l'urne, et non pas le fait de passer par un intermédiaire qui serait ici une machine. Et donc c'est tout à fait piratable, comme tous les outils informatiques qu'il y a dans le monde, il n'y a pas de outils informatiques qui ne soient pas impiratables. Et donc, il y a cet aspect-là qu'on appelle l'aspect de la sécurité, la sécurisation du processus. Ce n'est pas Merci. Uniquement la machine, mais aussi la transmission des résultats. Pour que ce soit transmis de manière sécurisée, il y a effectivement ce risque-là, parce que dans tout système, il y a toujours des points positifs et il y a aussi des points négatifs. Et sur le système de la machine à voter, c'est un des points négatifs, c'est justement la question de la sécurisation que tout le monde a fait valoir partout dans le monde. On a suivi, par exemple, les processus électoraux aux États-Unis, où on a souligné l'implication de...
On a compris, on va revenir à vous. Monsieur Ferdinand Kapanga, il y a aussi une réflexion pour vous qui vient de Goma, au Nord Kivu.
Ferdinand Kindamina, je vous appelle à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu. La majorité présidentielle fournit des efforts incroyables pour faire passer une loi électorale taillée sur mesure et où elle n'est que l'unique gagnante. C'est ici l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, disait de la plus grande sagesse, en conciliant tant soit peu les vies des uns et des autres, à se dépasser de son appartenance politique. Car si l'on s'en tient au principe de la majorité, ceci risque de faucher au départ le jeu démocratique que le processus électoral se trouvait être entaché de contestation dès le départ.
Oui, M. Ferdinand Kapanga.
Bon, l'ami a très bien présenté les choses. Parce que si les réformateurs les réformateurs, ceux qui veulent réformer la loi électorale, doivent se baser à tout prix sur un esprit de consensus. Et cet esprit de consensus est un accord avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte dit, lorsque vous voulez modifier la Constitution, lorsque vous voulez modifier la législation électorale, il faut absolument le faire dans un esprit de consensus. Un autre élément qui est très important dans cette réforme, c'est l'esprit de compromis pour ne pas donner l'impression de faire un passage en force dans une matière qui est très sensible, la matière électorale. Donc l'ami, sa réflexion est tout à fait fondée. Il ne faut pas que la République démocratique du Congo donne l'impression avec ce système de seuil que ce n'est plus le peuple qui choisit ses représentants, mais c'est la loi électorale. C'est ainsi que la majorité doit faire comme Mandela. Mandela, au sortir de l'apartheid, ses partisans voulaient que l'ANC adopte le système majoritaire de la minorité blanche qui leur donnait la majorité partout, au Parlement, au gouvernement. Mais Mandela dit, mes amis, que servirait-il, ça sont les paroles de Mandela que je prononce, que servirait-il à l'ANC d'avoir la majorité au Parlement si cela peut déstabiliser le pays? Parce qu'il y a aussi la dictature. Il y a la dictature de la majorité, mais il y a aussi la dictature de la minorité qui est trop pernicieuse. J'appelle les dirigeants de la majorité de faire comme Mandela.
Merci Alain Parfait Ngulungu. Une question pour vous, elle vient de Bukavu au sud Kivu.
Tchomba de Bukavu au sud Kivu. À mon avis, ce projet de loi est porteur des germes du conflit. La constitution congolaise donne le droit à tout Congolais d'élire et de se faire élire. Pourquoi exclure intentionnellement une catégorie déjà à cause de leur rang social? C'est comme qui dirait que les élections est une affaire de seuls riches. Pour moi, cette loi ne vient que pour entretenir des confusions au pays. À supposer un candidat d'un parti gagne les élections présidentielles, si son parti n'a pas atteint les 3%, que deviendra alors un président sans majorité au Parlement? Comment doit-on faire pour dégager la majorité afin de former un gouvernement? Que deviendra alors les candidatures à la députation provinciale? Quelle est l'importance de la machine à voter quand on sait que ça nous demandera du temps? N'est-ce pas là une façon de préparer le lit de la fraude à l'avance? Si par malheur ce projet de loi est adopté, nous aurons un sérieux problème de légitimité avec nos élus, sans compter la crise sociale que cela pourrait engendrer. Si ce projet de loi est à rejeter avec la dernière énergie.
Alain Parfait Ngulungu.
Oui, je voudrais d'abord remercier notre compatriote pour la question. Je dirais un peu mon opinion est proche de ceux qui pensent que depuis un certain temps, nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on peut appeler le caractère consociatif de notre démocratie. C'est-à-dire, notre démocratie actuellement, si vous voulez, est fondée sur un consensus, évidemment, issu de l'accord du 31 décembre dernier. Et donc, il faut éviter, comme le disait un peu notre collègue Ferdinand, il faut éviter cette sorte de dictature de la majorité, en voulant écraser justement l'opposition. Il faut faire en sorte qu'on évite que ces projets de loi électorale, ces projets de loi électorale déposés à l'Assemblée nationale, contiennent en son sein des germes conflictogènes. À quoi sert-elle cette loi électorale qui nous amènerait vers une crise sociale dans les mois et jours à venir? Je crois qu'il est, en tant que homme d'État, nos gouvernants doivent faire en sorte de trouver un consensus auprès de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral pour justement dégager avoir justement une vision claire par rapport à ce qu'on peut apporter dans ces processus de la réforme électorale. Mais je voudrais insister vraiment sur le caractère consensuel pour que justement ces projets de loi n'en freinent point le point de vue, que ce soit de l'opposition, de la société civile, mais aussi le point de vue de la majorité. Évidemment, on connaît déjà la position de la majorité, mais cette position, me semble-t-il, est justement n'est pas accepté par l'ensemble, si vous voulez, les grandes parties prenantes du processus électoral. Donc il y a lieu de revenir là-dessus pour voir dans quelle mesure la majorité ne peut plus imposer une position à d'autres parties prenantes, notamment l'opposition et la société civile.
Et donc vous pensez que la solution à l'actuelle situation, c'est trouver un consensus sur les questions qui fâchent?
Absolument, il faut trouver un consensus sur l'essai électoral dont il a été démontré à plusieurs reprises qu'il est pratiquement injuste de pouvoir imposer un seuil, alors que si vous voyez les catégories sociales des Congolais, je donne un exemple, un enseignant qui gagnerait plusieurs voix par exemple quelque part dans un des territoires et que bon, en appliquant ce seuil électoral là qui ne soit pas représenté, vous voyez comment ça peut créer un conflit social dans cette circonscription électorale. Par rapport à la caution, vous voyez quelqu'un qui, pour l'ensemble des Congolais, dont la majorité, on parle pratiquement de près de 70% des Congolais qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Donc on peut s'imaginer pour un fonctionnaire qui gagne moins de 150 000 francs congolais, il ferait plus de près de 3 mois pour justement arriver à voir cette caution électorale, ce qui est pratiquement une forme d'injustice.
Merci. Oui. Pour ce beau programme, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Vous avez suivi Alain Parfait Ngulungu qui propose un consensus sur les questions qui fâchent. Et vous pensez que dans les contextes du moment, les contextes politiques ou les impératifs politiques de chaque camp sont tels que un consensus actuellement pourrait être difficile. Est-ce qu'on peut vraiment envisager un consensus actuellement dans la classe politique congolaise?
Ben, je ne pense pas qu'il y aura un consensus sur la réforme électorale et que l'on va arriver malheureusement à avoir un passage en force de la majorité pour pouvoir faire adopter donc cette réforme. Et en ayant quand même l'écueil de la réforme, donc il n'y aura pas de consensus. Comme il n'y aura pas de consensus, on risque d'avoir en fait aussi un problème lié à que le processus électoral ne soit pas jugé crédible par les personnes qui n'ont vraiment pas voulu participer à la réforme. Donc ils vont commencer à délégitimer le processus électoral en mettant en exergue que la réforme a été passée, est passée au Parlement sans l'accord de l'opposition. Et donc c'est un écueil, de mon point de vue, qui va être un écueil qui va peser dans la crédibilité du processus électoral.
Ferdinand Kapanga, vous allez se conclure. Les consensus politiques seraient difficiles actuellement compte tenu de l'état d'esprit de chaque camp politique.
Je citais ici un instrument juridique de notre région, c'est-à-dire la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui oblige les États partis à modifier une loi électorale, une constitution, à mettant l'accent sur le consensus.
Et cette charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance interdit aussi la modification des règles des jeux en pleine compétition électorale.
Très bien. Et si je dirais aussi pour terminer, il ne faut pas que l'essai qui est proposé joue le rôle d'un système majoritaire qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qui ferait comme en Turquie où il y a eu un essai où seulement deux partis politiques ont siégé au Parlement, alors que ces partis politiques n'avaient gagné que 60% de voix, excluant 40% de la représentation. Même chose en Bulgarie, avec un seuil de 4%, où un quart d'électorat n'avait pas été représenté.
Alain Parfait Ngulungu, votre conclusion.
Oui, en conclusion, je dirais que cette réforme électorale au forceps, que comme l'a été la réforme constitutionnelle de 2011, amorcée par la mouvance présidentielle, va certainement c'est prêter le flanc justement à des incertitudes politiques qui vont plonger justement le pays vers le chaos, malheureusement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Alain Irongue de la Madimba était à la réalisation de cette émission sous la supervision de Pele Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capitale.